Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'écoute de notre magazine. Nous débutons avec et maintenant, chers spectateurs, un spectacle proposé par Cédric Roulia au Théâtre de la Renaissance d'Oullins. Pour suivre Guillaume et le groupe post-punk poétique Folloy. Gaël nous parlera de l'exposition « L'éblouissement des apparences » d'Yves Roset à la galerie Le Réverbère. Et Thomas nous lira un extrait de « L'insurgé » de Caroline Rémy, dite « Séverine ». Restez avec nous jusqu'à la fin, nous terminerons par nos Gédéons. Je vous propose de m'accompagner derrière le rideau avec le metteur en scène et photographe Cédric Roulia. Il propose avec sa compagnie de 11 à 3 heures et maintenant, chers spectateurs, au Théâtre de la Renaissance d'Oullins. Cédric Roulia, je viens d'assister à « Et maintenant, chers spectateurs » au Théâtre de la Renaissance du 5 au 9 mars dans la petite salle. On est très près des deux acteurs qui interprètent cette pièce, ce cabaret, cette revue. Comment définir ce spectacle ?
En fait, c'est complexe parce qu'on assiste à une revue de variété d'un autre âge, un peu désuète, qui se déroule sous nos yeux. Et on finit avec les personnages. L'idée, c'est de, à la fois de montrer des numéros et petit à petit de comprendre qui sont les personnages sur scène, donc Maximiliana, la meneuse de revue, et son acolyte Gabor. L'idée, c'est ça, c'est de, à la fois de rendre hommage à un cabaret qui n'a jamais existé, en fait, qui est un peu au croisement d'imaginaire entre le show télé et puis une revue de variété peut-être des années 50, 60.
Finalement, c'était les personnages qui vous intéressaient.
Je crois que c'est les deux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a chez moi, il y a un fantasme du show dans quelque chose d'un peu désuet que donc j'ai pas vraiment connu, et je pense que c'est parce que je l'ai pas connu qu'il y a une projection, et évidemment aussi les personnages.
Sûr, il y a quelque chose de très touchant, vos comédiens sont eux-mêmes touchés par ce qu'ils jouent, ils étaient très émus à la fin. Il y a beaucoup de sensibilité entre les deux personnages, cette tendresse aussi qui affleure.
Deux comédiens, leur travail a été de s'approprier, d'en dessiner quelque chose de sensible, de relier à une réalité, une biographie, de trouver les ressorts des personnages et de les faire exister. C'est venu lors de travail à la table, de discussion, de poser des questions ensemble, et on s'est aussi demandé à qui on voulait les faire ressembler, et quel personnage nous touchait et comment on avait envie d'y rendre hommage par le biais du spectacle.
On assiste pendant une heure à une suite de numéros, mais aussi à une réflexion, comme une sorte de voix que les personnages, leur voix intérieure. C'est la compagnie de 11 à 3 heures que vous avez créée il y a quelques années. Au départ, vous êtes photographe et les personnages sont assez posés comme ça. Il y a des moments de suspens où on est presque proche de la photographie, dans votre mise en scène en tout cas.
Enfin, j'ai cette inclinaison naturelle pour, je ne sais pas si ça se dit inclinaison, mais en tout cas, cette prédilection composer des tableaux, en fait, c'est une déformation sans doute de la photographie, c'est-à-dire l'envie de créer des compositions, et en ça, je suis aidé par le travail de mon éclairagiste Hélène Quintard, qui m'a aidé à créer des tableaux, et aussi par le travail de la scénographe Caroline Oriot. On est plus dans une idée de scène que dans la scène elle-même, et les frontières avec la réalité s'estompent petit à petit, et en effet, comme vous l'avez dit, qu'on plonge plutôt dans l'esprit des personnages, dans une sorte d'inconscient, de subconscient. Et il y a un prologue aussi qui donne une piste sur le degré de réalité en fait, qu'on peut apporter à l'ensemble de la pièce. Et puis il y a aussi le travail avec le compositeur Laurent Péju qui a permis d'ancrer aussi, de créer très vite des ambiances, créer des tableaux en fait, c'est ça pour revenir à votre question, des tableaux qui se succèdent assez différents. Avec le travail de mon équipe, on rend tout ça vivant et sensible et incarné.
Alors ça s'incarne aussi dans les accessoires, dans les costumes, dans les coiffures, tout ça a un énorme travail de recherche. Est-ce que ces vêtements sont des vêtements d'origine ? Ce sont des vêtements vintage ?
Oui, il n'y a que du vintage en effet, sauf une veste à sequins, mais tout le reste, oui, c'est un fétichisme lié à... En fait, l'idée que les costumes qu'on utilise soient de l'époque dont on parle, ça m'importait beaucoup, même si on peut considérer que ça n'a aucune importance. Mais pour moi, il y a un peu un acte de vaudou ou de voyez, un petit peu d'invocation d'un passé par le biais du textile.
On voit bien aussi qu'on est encore ici sur la scène avec un décor qui me rappelle les années pop, un peu de Martial Raïs. J'imagine que le plasticien que vous êtes, en fait, y a pensé également, hein, ces grandes peintures. On convoque une nostalgie, on est aussi dans le présent.
Oui, on est dans le présent, mais on parle de ce que c'est d'avoir traversé le temps, puisque la personnage principale a un âge qu'on révélera pas, mais en tout cas, elle a eu le temps de connaître un certain nombre de décennies. Et en effet, il y a l'idée de se reconnecter un petit peu avec ça, avec la scénographie. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, reconvoquer les années plastiques, en fait, c'est pas juste nostalgique, j'ai l'impression que ça donne le vertige un petit peu, puisqu'on a parcouru beaucoup de chemin. Je crois que c'est ce petit vertige temporel, en fait, qui m'intéresse. Je crois que le spectacle, il parle aussi beaucoup du temps.
J'ai pensé à vos photographies, mais aussi au cinéma, au roman photo, à beaucoup, beaucoup d'univers comme ça, qui ont quasiment disparu de nos cultures visuelles. Ce sont des figures qui sont un peu iconiques, un peu comme Dalida, par exemple, ou une Mireille d'Arc dans Le Grand Blond à la Chaussure Noire.
Oui, oui, tout à fait. On peut avoir toutes ces références en tête et en même temps n'avoir besoin d'aucune référence, je pense, parce que c'est... Et je pense qu'on est au croisement, en effet, de la speaker, de la chanteuse, de la comédienne, de toute figure un petit peu médiatique, surtout qui daterait d'un temps où le vecteur de la culture, vous parlez de la culture pop, était très limité. C'est-à-dire, il y avait les journaux et la télé. Aujourd'hui, les intérêts s'atomisent. C'est-à-dire, il y a une constellation d'intérêts et il n'y a plus cette sorte d'assise un peu verticale à sens unique des icônes. De façon un peu plus spécifique, il y a un couple mère-fille qui nous a beaucoup inspiré, qui est celui de Debbie Reynolds et Carrie Fisher. Puisque Debbie Reynolds, donc la comédienne Chantons sous la pluie, sa fille Carrie Fisher qui faisait la princesse Leia dans Star Wars. Et en fait, elles avaient un petit peu ce genre de relation amour-haine symbiotique et en même temps dysfonctionnelle. Et la fin de leur vie, puisqu'elles sont mortes à un ou deux jours de distance, on voit une sorte d'interdépendance qui est assez poignante. Ça a été un peu notre guide quand on voulait se recentrer un petit peu sur le cœur battant du projet, c'était de se rappeler ce qui nous touchait dans cette histoire, dans la filiation. C'est un peu la raison pour laquelle on a eu envie de raconter cette histoire, en fait, de retransmettre ce qui nous touchait au plus haut point dans ces personnages qui ont existé. Après, on a évidemment mélangé avec des milliards de références qui sont plutôt françaises en réalité.
On voit très bien, justement, je commençais mon interview par l'émotion des comédiens. On va les citer d'ailleurs, qui sont absolument excellents au plateau.
Les excellents et formidables Barbara Galtier et David Bescon.
On sentait leur émotion. Il y a vraiment cette dimension de la tendresse qui affleure tout au long de la pièce, qui donne justement à ces deux personnages une vraie épaisseur, une vraie dimension derrière le maquillage, derrière les paillettes, derrière les coiffures et derrière les vêtements et les accessoires. On est vraiment plongé dans cette intimité de la relation, qui est vraiment centrale, me semble aussi, dans la pièce.
Exactement. En fait, encore une fois, le chemin est celui-ci. Le chemin, on part de la scène pour arriver à la coulisse, en quelque sorte, et à l'intimité de ces deux personnages, en un chemin qu'on a voulu à la fois distrayant et petit à petit faire affleurer ce qui nous touche dans ces personnages.
Apparaître derrière les masques. Et moi, je vous invite à découvrir. Et maintenant, chers spectateurs, c'est jusqu'au 9 mars au Théâtre de la Renaissance à Oullins. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Si vous avez envie cette fin de semaine d'un voyage temporel pop, nous vous conseillons ce spectacle intense. C'est jusqu'à samedi 9 mars au Théâtre de la Renaissance d'Oullins. Bonjour Guillaume, cette semaine tu nous fais découvrir l'univers post-punk de Folloy. Bonjour et merci d'être tous les trois sur notre plateau cette semaine.
Alors oui, Folloy, un nom étrange. C'est grâce à une certaine personne, un certain Francis, qui n'est ni Lalanne ni Cabrel, qui m'a indiqué un petit peu ce que vous faisiez. Donc déjà on va peut-être parler de ce nom, Folloy, moi j'avoue que j'ai cherché dans les dictionnaires. Est-ce que c'est lié à un personnage mythologique? C'est le Dahu moderne?
Alors, mythologique peut-être, mais d'une certaine époque. En effet, parce que Folloy, c'est un nom que je donnais quand j'étais tout petit, aux chevaux que je voyais passer dans les prés. Et en fait, c'est cette idée aussi d'enfance perdue, de mélancolie un peu de l'enfance. Je trouve que ça exprimait bien aussi ce rapport-là, quoi, à l'enfance. Et c'était un joli mot.
Vous avez donc l'année dernière sorti un EP, un premier EP?
C'est ça, exact.
Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, dans cet EP, il y a un titre qui fait référence à
au Folloy.
Au Folloy, voilà, c'est ça. Je vois des Folloy partout.
Voilà, c'est ça. Hein, c'est je veux voir ça. Des Folloy.
Je veux voir des Folloy. Ouais, et ben nous ça. Aussi, on voudrait bien voir des Folloy, mais bon, il faudra aller vous voir sur scène très prochainement. Alors, comment on pourrait décrire ce que vous faites? Parce que c'est particulier. D'abord, vous êtes un duo, guitare, chant, machine, et puis batterie, ouais. Chant aussi, assez inhabituel. Enfin, c'est vrai qu'il y a des duos batterie-guitare, c'est vrai que ça existe. Et que le batteur chante, c'est quand même particulier.
Oui, en effet, c'est peut-être particulier. D'ailleurs, ça m'a demandé pas mal de travail de pouvoir chanter en même temps que de faire de la batterie. C'est un cinquième membre qu'on ajoute clairement, et pour la coordination, bon, voilà. Sur scène, ce qu'on fait, c'est ces deux gars qui crient dans des micros, qui chantent, qui tapent sur leur fût, qui grattent leur guitare.
Et puis une envie de vomir, une espèce de spleen... qui est présent, quoi.
Ouais.
On le fait par les textes et notre musique.
Donc sur ce premier EP qui est nommé Chrysanthème, enfin c'est pas le truc le plus joyeux, du parler chanter, enfin comment on pourrait décrire cela?
Ouais, c'est ça, c'est un peu parler chanter slam. Enfin, une des grosses références qu'on a, c'est le groupe O2N. Le français, c'est vraiment quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance.
Ouais, en fait, donc comme disait Nicolas, les textes sont vraiment importants pour nous. On voit un peu ça comme un instrument de musique aussi, dans le sens où on aime bien jouer avec les sons, jouer avec le texte, penser ça comme un instrument à faire sonner. Et quand on commence à écrire, souvent on pense d'abord à la sonorité et après on y met du sens.
Ouais, c'est exactement ce qu'on ressent, en tout cas quand on écoute les titres. Cet EP, il y a une pochette un peu particulière. Alors, je sais pas quelles sont les références de cette pochette, mais moi j'y ai vu un peu du Julia Ducournau avec ce film grave. C'est un peu Walking Dead, parce qu'il y a on pourrait décrire la pochette. Il y a une jeune fille sur la pochette, sa bouche est saturée de quelque chose, peut-être du sang. C'est assez bizarre en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui a fait cette pochette et quel est le sens derrière?
Donc le photographe, c'est Carlos Ramirez, qui est un photographe lyonnais. Trouvé son travail sur internet, le site Mevalema. Madré, je crois, .com, qui travaille beaucoup justement avec des modèles photos, etc. Sur ce genre de photos. Pour l'anecdote, c'est ma compagne qui est sur la pochette. Pendant longtemps, on a cherché. Je suis retombé sur cette photo. Pas comment l'expliquer, mais ça a été, voilà, tout de suite, on s'est dit, c'est celle-ci. Pas s'il y a vraiment d'explication derrière, mais en tout cas.
Bah, c'est un petit peu comme les textes des chansons. Je dis pas que les ouais. chansons ne veulent rien dire, surtout pas. Mais c'est un petit peu, il y a peut-être un message un peu caché, en fait.
Ouais. Enfin, grave et rageant dans ce qu'on veut exprimer aussi. C'est vrai que la pochette amène. Cette vision-là, quoi.
Ouais. Alors, on va peut-être écouter un titre. Je voulais vous demander de choisir un titre, mais en fait, non, c'est moi qui vais choisir un titre, parce qu'il y en a un que vraiment j'aime beaucoup, c'est le dernier, qui s'intitule « Tu joueras peut-être dans mes flaques », et puis on en parle un petit peu plus tard.
Ok, ça marche.
Machin, y a des nuages qui se perdent, j'aimerais leur prendre la main, les ramener en terre ferme, les ramener avec moi, plus les entendre pleurer, si j'ai leur lésé moi, me réanimer. T'as plus pied petit machin, y a des nuages qui se perdent, j'aimerais leur prendre la main, les ramener en terre ferme, les ramener avec moi, plus les entendre pleurer, si j'ai leur lésé moi, me réanimer. Machin, y'a tes nuages qui se perdent, j'aimerais leur prendre la main, les ramener en terre ferme, les ramener avec moi, plus les entendre pleurer, sécher leur lésez-moi, me réanimer. Y'a trop d'orages dehors, mais je vais encore sortir. Depuis que ça tonne très fort, j'attends une éclaircie. Cumulus par-ci, cumulus par-là, cumule de ta vie, enculé sans foi. Les petits coins de parapluie qui partagent même pas leur petit coin de paradis au pays des rois. Et ça fiste comme dans un hardcore. noir et ça glisse et ça glisse, on vit dans un eau-bord. J'ai même plus si il pleut, vu que chiale des torrents. J'ai besoin de m'être brumeux avant que je pisse le sang. À l'avenir, garde tes bottes, sait-on jamais demain. Quand tu seras à ma porte, tu joueras peut-être dans mes flaques. Dans mes flaques, tu joueras peut-être dans mes flaques, dans mes flaques, dans mes flaques, tu joueras peut-être dans mes flaques.
Donc on vient d'écouter Fall Oil avec Tu joueras peut-être dans mes flaques. Alors moi j'y ai vu un petit côté Rage Against the Machine. C'est bien. Il y a ce moment un peu parler chanté, puis il y a un gros riff de guitare qui arrive au milieu de la chanson. Elle est assez courte celle-ci par rapport aux autres. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire de ce titre-là?
C'est un peu l'expression aussi du... Enfin je parlais de rage tout à l'heure. En fait c'est ça aussi, c'est l'expression un peu d'une rage, d'une colère. Comme le lien avec Rage Against the Machine, enfin, qui est un groupe aussi auquel on attache beaucoup d'importance. Avec lequel j'ai grandi aussi pas mal. Mmh. Je sais pas pour toi Théo, mais enfin moi je sais que pas mal un truc avec lequel j'ai grandi.
Ça fait un peu moins partie de mes références que Nine Inch Nails, mais en effet oui, c'est une référence du projet. Ça, c'est...
Je cite quand même une phrase que moi j'aime beaucoup dans le texte de la chanson. Les petits coins de parapluie qui partagent même pas leur petit coin de paradis au pays des rois. Qui sont les rois alors?
Enfin on va pas citer de nom, mais ouais. Bon, des gens qui amassent beaucoup de pépettes, on va dire. Il y a ce côté-là aussi dans le projet de vouloir dénoncer des abus de pouvoir.
En fait on n'aime pas trop les injustices sociales, donc dans pas mal de nos textes, ce thème-là va se retrouver.
Est-ce que vous avez quelques dates de concerts annoncées?
Prochainement, dans les mois qui viennent, pas trop. Mars-avril, ça va être un peu calme, mais on joue au Jack-Jack le 16 mai.
Oui, parce que là, l'EP, il fait presque c'est un an.
C'est ça,
et
ouais.
Donc, vous êtes peut-être en phase d'écriture ou d'enregistrement prochain?
De création. Alors, on aimerait bien, justement, prendre du temps pour créer, arriver avec de nouvelles choses. Parce qu'un album, ça serait super, mais c'est beaucoup de travail aussi. Déjà, peut-être un deuxième EP qui ferait office d'épisode 2, de vouloir présenter de nouvelles choses au public.
D'accord, et on remercie Francis du Labo du Conservatoire qui vous encadre un petit peu, et puis on vous souhaite bonne chance, et puis on vous suit au Jack-Jack donc très prochainement. Merci Fall Oil.
Merci beaucoup.
Gaël, pour ta chronique du jour, tu nous proposes de parler de l'exposition « L'éblouissement des apparences » d'Yves Roset à la galerie Le Réverbère.
Exactement, c'est une lumineuse rétrospective en hommage à l'œuvre d'Yves Roset, née à Lyon en 1953 et décédée il y a presque un an. Jacques Damez et Catherine Derrioz du Réverbère rencontrent Yves Roset en 1984. Deux ans plus tard, ils programmaient déjà la première exposition personnelle du photographe au sein de leur galerie. Avec la série Sarabande, présentée dès la vitrine extérieure du Réverbère, l'atmosphère de la rétrospective est lancée. Cette série, née de lentes déambulations faites entre 2013 et 2017 dans les mêmes rues d'un quartier parisien, propose, pour citer Yves Roset, une carte mentale et une intrigue visuelle. L'urbanisme flouté et embrumé sert la démarche du photographe, ni se souvenir, ni oublier. Ces flous et troubles se retrouvent dans Identité Partition, une série réalisée entre 84 et 86, année initiant la collaboration entre Yves Roset et Le Réverbère. Qu'est-ce qu'une identité? Qu'est-ce qu'un portrait? Ne sommes-nous pas composés d'une multitude de facettes? Pour tenter de matérialiser ces interrogations, Yves Roset construit littéralement une idée du portrait en multipliant les images qu'il assemble dans de savants montages, découpage, superposition, juxtaposition. L'idée du portrait émerge d'un kaléidoscope de cadrage jouant avec des transparences spectrales et des traitements plus opaques. Image construite, projetée, montée, un portrait ne serait ni plus ni moins qu'un exercice de révélation lors duquel surgiraient, petit à petit, des interprétations et des lectures possibles. Yves Roset parle d'écho d'image, d'image fantôme, soulignant « la personne n'est pas une, mais faite d'accumulation, de surproduction de reflets et de sens ». Pour cette série, Yves Roset s'est imposé une contrainte, à savoir n'utiliser que trois types de photos. Profil, trois quarts et face de sa propre tête. Le visage ainsi démultiplié en stop motion offre une décomposition du mouvement qui rappelle les chronophotographies de Muybridge. Identité partition reconstitue en segments rectangulaires comme ceux des radiographies translucides mais ici colorées une idée du portrait. Les fragments de Polaroid assemblés en patchwork révèlent la complexité de l'identité mais aussi l'artifice de la représentation. Qui sommes-nous réellement? Le dispositif d'Yves-Rosay m'a fait songer à la série Real Basquiat de 84 dans laquelle Andy Warhol avait créé à partir de collages de photographies Polaroid des portraits sérigraphiés de Basquiat soulevant la question qui est le Basquiat réel? Vaste interrogation entre le réel et le construit qui se retrouve chez Yves-Rosay. Pour la série Utopie, une promesse de bonheur pour une mémoire ouvrière, Yves-Rosay a réalisé un recueil de photographies de personnes sur leur lieu de travail ou dans le contexte familial. Ce répertoire d'images en noir et blanc a été puisé dans des albums de famille d'amateurs. En retravaillant les images avec de la peinture, Yves-Rosay se rapproche de la veine du pictorialisme, courant qui recherchait une photographie artistique dont les effets confinaient avec ceux du dessin et de la peinture. Le travestissement offert par le pictorialisme se déploie également dans la série Il Mirabile, le merveilleux, réalisé à partir de négatifs sur verre de photographies érotiques datées des années 20. Les effets d'assemblage des négatifs anglais des polaroïdes et l'ajout de couleurs qui déréalisent les images rendent notre perception caduque. Image voilée tout autant qu'elle révèle, imaginer voir ou voir réellement, voilà qui attise les spéculations les plus intimes. La série 33+1 Chimère se compose de photographies en noir et blanc qui, en conjuguant nature et individu, instaure plus qu'un dialogue. On frôle l'hybridation, la chimère. L'identification de ce qui est corps et de ce qui est nature est volontairement rendue énigmatique. Ces combinaisons offrent plusieurs correspondance à l'interprétation libre. Des monochromes gris jouxtent et photographies en noir et blanc, on songe au gris neutre, le gris à 18%, référence de toutes les densités de gris. L'estrade de la galerie propose la série Figures déliées sur un fond sans fond. Nouvelle approche plastique, mais quel pourrait être le point commun entre toutes ces éclectiques séries? Ne résiderait-il pas dans ce souci de titre poétique? Les oiseaux ici saisis en plein envol, cadrés en fragments, nous encore une fois des impressions de fluctuation, de suspension et de flottement. Sensation de flottement retrouvée à l'étage de la galerie dans la série D'étranges devenir à nouveau, datée du début des années 90. Des brumeuses et nébuleuses ténèbres émergent de visages. Mystère et dévoilement sont toujours convoqués. Le spectateur assiste à une révélation graduelle de portraits laqués. Yves-Rosay a réalisé des images palimpsestes servies par plusieurs couches de gomme laque. L'effet brillant sur les quatre modules mesurant 2 mètres de long au total est saisissant. L'exposition L'éblouissement des apparences Yves-Rosay est programmé jusqu'au 30 mars. Visite commentée jeudi 21 mars à 19h sur inscription. Plus d'informations sur galerieleréverbère.com.
Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour Thomas, tu nous fais entendre les mots de Caroline Rémy, dite Séverine. Pionnière du journalisme et l'une des grandes figures de l'histoire des mouvements révolutionnaires de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Nous t'écoutons lire un extrait de L'Insurgé et on en parle juste après.
Vous m'avez demandé, cher directeur et ami, mon opinion sur le drame de Toulon. C'était chose dangereuse. L'avis que je puis émettre étant d'une hardiesse à faire paraître ingénus et familiaux les contes les plus risqués publiés ici. Car l'immoralité, vous le savez, est de deux sortes. Celle qui chatouille en riant le nombril des sénateurs, celle-là, tous les régimes l'ont encouragée, et celle qui s'arrête, grave, devant certains problèmes, celle que n'inquiète pas la crudité du sujet et qui marche dans l'ordre jusqu'au rein, sans frisson et sans nausée, si quelque être s'y noie en cette ordure et appelle au secours de toute la force de son désespoir, de toute l'angoisse de son abandon. C'est cette immoralité-là qui est mienne et j'y vais donner libre carrière, audacieusement, cyniquement, étonnant les superficiels qui me considéraient un peu comme la vertu de la maison, mais ne surprenant point les autres, ce qui, habités à lire entre les lignes comprendront que ce que j'écris aujourd'hui n'est que la résultante logique absolue, implacable, de ce que j'écrivais hier. Et d'abord, un mot sur l'affaire elle-même, ce qu'on a appelé dès le premier jour le scandale de Toulon. Ah oui, un joli scandale. À l'actif bien moins des accusés que des magistrats, la dernière stupidité de la justice, la gaffe atémise, quoi. Mais est-ce bien une gaffe ? Cela pue la vengeance à plein nez, la vengeance de province, rance et moisie, avec des relents de vieilles demoiselles et des sentiments de Robin hérité. Cela ressemble furieusement à la revanche d'une caste sur son adversaire hier puissant, la mise en pièce d'un homme par toutes les furies de la magistrature, de la bonne société et de l'autorité maritime. Car elle en est, l'autorité maritime. Elle en est plein. Monsieur Fouroux avait été sous ses ordres, puis libéré, avait combattu des abus qu'il connaissait d'autant mieux qu'il en avait souffert. Rappelez-vous l'affaire Ginalac. Le maire soutint la population et les journaux de la localité contre l'arrogant sous-lieutenant et en eut raison. Évidemment, l'autorité maritime ne pouvait nier l'évidence des faits, mais elle fut hors d'elle d'avoir à reconnaître et à châtier publiquement les torts d'un de ses subordonnés. Enfin, Madame de Jonquière est la femme d'un marin, la bru d'un contre-amiral. L'autorité maritime fut bien convaincue que ce choix n'avait d'autre motif que de la narguer, de l'atteindre dans son collectif honneur conjugal. Étudiez cela attentivement. Jamais la lutte entre l'élément civil et l'élément militaire n'atteint pareil degré d'acuité sournoise. Jamais élu d'une ville ne fut en butte à plus de haine, guetté par plus de pièges, miné par plus d'ongles tenaces, grattant le sol sous ses pas. Lisez les détails communiqués d'abord, et si vite. Monsieur Fouroux était républicain, et même républicain avancé. Il avait su se rendre populaire. Les ouvriers des ports votaient pour lui, etc., etc., etc. Il y a autre chose, croyez-le, en cette affaire, que ce qu'on raconte. Qui a dénoncé ? Qui a donné l'ordre immédiat des poursuites ? Ne parle-t-on pas aujourd'hui de concussion, de détournement, lamentable et abominable calomnie qui ne tiennent pas debout ? Si bien que Ranc, Charles Laurent et d'autres encore sont obligés de crier « silence » et de rappeler ces furieux à la pudeur. Le scandale de Toulon, savez-vous ce que c'est ? C'est un roman de Malot, ourdi comme l'est le beau-frère ou le docteur Claude, un monstrueux enchevêtrement de rancunes provinciales tissées autour d'un homme et le ligotant, l'enserrant, l'étouffant. Remarquez bien que je ne plaide pas non coupable. Il se peut très bien que M. Fouroux ait fait ce dont on l'accuse. Et puis après, en administrait-il moins bien sa ville pour cela ? Parmi ceux qui seront dans la salle d'audience le jour où il passera aux assises, s'il y passe, tant juges que témoins, tant jurés qu'auditeurs, y compris les huissiers et les gendarmes, il y en aura plus de 100, entendez-vous, qui seront identiquement dans le même cas. L'avortement. Je voudrais bien qu'on me dise d'abord où et quand il commence. J'ai peu habitué les lecteurs du Gil Blas à leur en compter de raide, mais vrai, il me coûte cette fois de mâcher mes mots. L'homme qui se garde des suites d'une rencontre, la femme qui préserve immédiatement ses échéances futures, sont-ils donc des avorteurs ? En bonne logique, la loi devrait dire oui. Et avorteur aussi au nom le vilain qui se met son blé en herbe, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Israël de germer et de moissonner. Mais à ce compte, les collèges, les pensions, les casernes, les couvents, les navires, toutes les agglomérations d'adolescents, d'hommes, de femmes où les sexes isolés se s'appellent et s'illusionnent sont des fabriques d'avortement. Et à quel moment est-il légal l'avortement ? À quel moment ne l'est-il pas ? L'Église est logique au moins dans ses interdictions, dans ses défenses, mais le code, ha ! Le blagueur. Comme si la conscience, la seule loi du monde, faisait ses distinctions et s'abritait derrière ses subterfuges. Dès qu'un être a été lâché sur la terre, si petit, si frêle, si touchant dans sa laideur et dans sa faiblesse, dès qu'il a vagi son premier cri, agité ses menottes, dénoué ses petons, il vit, il est sacré. Avant, il y a une femme, et rien qu'une femme. Vous m'entendez bien ? Cela est si juste qu'en cas d'accouchement difficile, les médecins n'hésitent pas. Ils sauvent la mère et laissent l'enfant dans le néant. On les étonnerait rudement en les traitant d'avorteurs. Mais la repopulation, disent les économistes, la repopulation, misérable hypocrite, qu'a-t-elle à voir là-dedans ? Et comment osez-vous prononcer ce mot ? La repopulation. Que fait-on donc pour les nombreuses familles, les tiolés de 10-12 moutards qui, dans notre état social, ne trouvent ni de quoi se nourrir, ni de quoi se loger ? Mon confrère Montorgueil, l'autre jour, en tête de l'éclair, signalait un de ces faits à l'indignation publique. Écoutez ça. Il est à Paris un artiste ouvrier de grand mérite, M. Mingonna, habitant récemment 13 rue Bayen, médaillé de l'exposition de 1889 pour des tapisseries d'une finesse remarquable. Cet honnête et laborieux ouvrier a eu 11 enfants. Il lui en reste 7. Depuis 6 semaines, il est sans logement parce qu'on ne veut pas d'enfants dans les maisons où il s'est adressé. Il a loué un modeste appartement dans 10 maisons successivement. Il a remis au concierge dans chacune de ces maisons un denier à Dieu. Partout, on le lui a rendu et on a refusé de le recevoir quand on a vu arriver ses enfants. Je citerai notamment les concierges de la rue Demours au 74, de la rue Poncelet au 3 et au 10. Commissaire de police auquel il s'est adressé pour exiger exécution des locations verbales, constaté par la remise des deniers à Dieu, a refusé d'intervenir. Voilà 6 semaines que dure le supplice de l'expulsion pour cause d'enfants. Pendant ce temps, le malheureux ouvrier a mangé ses économies. Il n'a pu travailler à son métier de réparateur de tapisserie où il excelle. Il a empilé sa pauvre famille dans la chambre de son vieux père, sauf sa femme et 2 de ses filles qui sont à l'hôpital. La repopulation. Il faudrait prendre les ultimes excréments de la famille Mingonna pour en barbouiller ceux qui osent prêcher la repopulation ou meurent de faim. Que fait-on pour les chefs de nombreuses lignées? Où est la récompense, l'encouragement qu'on leur offre, l'appui qu'on leur accorde, l'aide qu'on leur prodigue, l'allègement de leurs charges, de leurs pesants devoirs, de leurs écrasantes obligations? Rien. La peine, la misère et le suicide au bout, voilà leur lot. Avant que d'imposer les célibataires ou que d'aller fouiller dans le panier à linge sale des sages-femmes, la loi ferait vraiment bien de payer ses dettes. Moins de faubouriennes, même mariées, éviterait un accroissement de postérité si le pôle à venir ne devait pas arracher le pain de la bouche de Jacques, Pierre et Jeanne. En se privant de tout, c'est la gêne. Un de plus, ce serait la misère. Elles se font quelquefois avorter par amour maternel, les ouvrières. On ne se doute pas de ça dans l'économie sociale, ni dans la magistrature non plus. Quant à celles qui risquent leur vie pour sauver moins leur réputation que le repos de ceux qui les entourent, elles sacrifient à un préjugé dont le code seul est responsable, car ce n'est certes pas la nature qui en a eu l'idée. Lorsque les hommes ont placé l'honneur des hommes sous le cotillon des femmes, ils auraient dû songer en même temps à ne pas imputer de crime et à ne pas frapper de châtiment tout acte commis par la femme pour sauvegarder l'apparence de cet honneur-là. Le contraire est illogique et cruel. Puis après tout, je le répète, elles risquent leur vie, celles qui refusent la maternité accrochée à leurs entrailles, et le danger anoblit la pire des actions. Être espion en temps de paix est vil et lâche. Être espion en temps de guerre est héroïque et noble. Les agents des mœurs sont honnis. Les agents de la sûreté sont estimés. Pourquoi ? C'est le même métier, cependant. Il ne varie ni dans ses mobiles, ni dans ses conséquences. Oui, mais le péril est là. Les 12 balles du peloton d'exécution, le surin de l'escarpe font le blason, la mort donne l'investiture. Cette chair qui a péché, la pécheresse l'offre à la tombe. Elle sait qu'elle peut mourir, elle sait qu'elle peut dépérir à jamais, perdre sa beauté, sa santé, sa force, et le mobile qui l'a fait agir est plus puissant que la révolte de son épouvante. Si vous avez des pierres dans votre jardin, jetez-les lui, moi pas. Mais les coquettes, disent les honnêtes gens, celles qui ont peur pour la finesse de leur taille et l'éclat de leur teint, il en est peu de celles-là. Les femmes, aujourd'hui, sont assez instruites pour savoir qu'un accident tardif les vieillit et les fane souvent autrement qu'une naissance. Et, chose gaie, les bonnes gens en question, qui élèvent leur rejeton dans la vénération de la civilisation grecque, ignorent que le peuple d'Athènes votait l'avortement de Phryné, ne voulant pas qu'un chef-d'œuvre aussi parfait risque d'être abîmé. Nous n'en sommes pas là. Mais elles pullulent, les pauvres petites frinées qui ne peuvent, vivant au jour le jour, s'imposer un chômage d'un an. La plupart des femmes galantes ont un enfant, la surprise des débuts, mais n'en ont plus par la suite. Il y aurait des désabonnements. Exercer un autre métier? Mais puisqu'il n'y a pas plus de doigts qu'il n'y a d'ouvrage et que les travailleuses honnêtes crèvent de misère, faute de travail, que viendrait faire cette concurrence au marché à besogne? Il vaut mieux qu'elles restent ce qu'elles sont et vengent les autres. Puis leur inconsciente philosophie s'émeut du sort des petits qui naîtraient de leur alcôve. Des enfants à 36 pères, des fils de filles, de la chair à chagrin comme elles ont été de la chair à plaisir. Ah non, par exemple. Et leur moralité évite cette immoralité-là. Voyez-vous, l'avortement est un malheur, une fatalité, pas un crime. La législation n'a pas le droit de punir ce qui est son œuvre à elle seule. Tant qu'il y aura de par le monde des bâtards et des affamés, le drapeau de Malthus, le drapeau taché du sang des infanticides avant la lettre, flottera sur ce troupeau d'Amazones rebelles qui, forcés par vos lois de tenir leurs seins arides, ont le droit de garder leurs flancs inféconds.
Merci beaucoup Thomas pour ce texte long, certes, mais essentiel et très fort, à l'heure où on vient d'inscrire dans la Constitution l'avortement. J'imagine que le choix de ce texte n'est pas un hasard.
Oui, tout à fait. C'est très savoureux de mesurer le chemin parcouru. Ce texte, il a 130 ans. On voit contre quoi elle argumentait suite à un fait divers, hein, vous l'avez compris. Ce que je trouve encore plus savoureux, hein, c'est que c'est aussi en écho, pas simplement à cette constitutionnalisation de l'IVG, mais c'est aussi en écho au fameux réarmement démographique actuel.
Bien sûr.
C'est en quelque sorte de l'en même temps. Moi j'aime beaucoup ce texte aussi parce qu'elle mobilise un verbe extrêmement fort.
Oui, c'est très beau, très bien écrit.
Très vive, c'est aussi
on sent son caractère.
Ouais, tout à fait. C'était
volcanique. Une Caroline
proche,
Rémy.
Voilà, elle signait Séverine. C'était une proche de Jules Vallès.
Jules Vallès.
Selon les articles, hein, donc là j'ai lu un extrait d'un bouquin qui est aux éditions de L'Échappée. C'est une compilation de ses articles qu'elle a publié dans des journaux, sachant qu'elle a été vraiment l'associée de Jules Vallès au cri du peuple, hein, à l'époque. Mais là c'était un article du journal Gilles Blas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une effacée de l'histoire. Aussi elle,
bien sûr, absolument.
Voilà, alors que sa langue est d'une puissance remarquable.
On va les retrouver toutes ces effacées de l'histoire. On va s'en occuper, effectivement. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir fait entendre Séverine. Merci. Place à nos Gédéons cette semaine. Allez Gaëlle, tu commences. Avec quoi es-tu venue ?
Mon Gédéon de la semaine est le livre « L'art qui guérit la mémoire » du neurologue Pierre Lemarquis aux éditions Azan. L'art est bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'affirme dans un rapport du 11 novembre 2019. La neuroscience confirme. L'art peut sculpter notre cerveau. Lorsque nous regardons de l'art, notre cerveau est stimulé et produit de la dopamine, connue comme un transmetteur de bien-être. C'est pourquoi de plus en plus d'ordonnances muséales sont prescrites. Fin 2020, Pierre Lemarquis publiait « L'art qui guérit ». « L'art qui guérit la mémoire » poursuit et complète ce premier ouvrage. Toujours préfacé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ce deuxième opus se focalise plus sur la stimulation et l'enrichissement de la mémoire grâce aux œuvres d'art. Lignes de Nazca, Livre de Kelch, Giotto, Edward Hopper, mais aussi Vermeer, Rembrandt, Marcel Duchamp ou Christian Boltanski, l'art qui guérit la mémoire insiste également sur les bienfaits de l'art pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. À noter un texte de Laure Mailloux, fondatrice de L'invitation à la beauté, une association présidée par Pierre Lemarquis, complète l'ouvrage sur la promotion de la santé par la beauté. Je rappelle les références, L'art qui guérit la mémoire de Pierre Lemarquis aux éditions Azan.
Merci beaucoup Gaëlle. Alors Guillaume, quel est ton Gédéon cette semaine ?
Eh bien moi mon Gédéon ça va être un magazine qui paraît toutes les semaines, un hebdomadaire qui s'appelle Le 1, que vous connaissez peut-être, qui a été initié par Eric Fotorino, un ancien du journal Le Monde. Et Le 1 se propose en fait chaque semaine d'étudier un sujet mais à fond. Et pourquoi Le 1 ? Parce que c'est un journal qu'on lit en une heure, grosso modo. Et ça c'est, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Le 1, mais peut-être pas, peut-être que c'est moi qui pense cela. Mais en tout cas je trouve ce magazine vraiment très intéressant. Alors c'est très étonnant parce que c'est en papier, je suppose, recyclé. Ça s'ouvre, ça se lit pas vraiment comme un journal, ça s'ouvre bizarrement. Et voilà, donc il y a des sujets.
C'est plié en quatre.
Voilà, c'est plié en quatre. Il y a des sujets d'actualité très intéressants. Et puis dernièrement, ils ont consacré un hors-série mémoire à Robert Badinter qui nous a quittés il y a peu. Et c'est vraiment un numéro passionnant avec une reproduction d'une affiche de Jean-Michel Follon consacrée à la lutte contre la peine de mort qui est vraiment très très belle. label. Et puis voilà, vraiment c'est un hebdo.
On le trouve en kiosque.
On le trouve en kiosque, c'est pas cher, je crois que c'est 4 euros, je sais plus, 4 euros il me semble, ou 4 euros 50. Et puis ça me permet de faire un lien parce que je suis en train de relire un bouquin justement de Robert Badinter, qui est un bouquin magnifique consacré à sa grand-mère qui s'appelle Idis. C'est sans doute le dernier livre qu'il ait écrit, hein, voilà, qui est aux éditions Fayard. On retrace toute la vie de cette grand-mère qui a quitté l'Est de l'Europe pour arriver à Paris avec rejoindre ses enfants et voilà, et c'est vraiment assez bouleversant et finalement ça fait beaucoup écho à des sujets d'aujourd'hui concernant l'immigration et comment on accueille les gens et voilà, et on revit tout le Paris de ces années où les juifs de l'Est en fait étaient dans les quartiers pour récupérer des vêtements, les rapiécer, les revendre, enfin voilà, des choses comme ça. Ça se lit très rapidement et puis il y a un petit cahier photo familial à l'intérieur qui est très touchant, voilà, un livre autobiographique Robert Badinter qui s'appelle Idis chez Fayard.
Merci beaucoup. Pour ma part, ce sera cinéma avec Black Tea du réalisateur mauritanien Abdelrahman Sissako. 10 ans après Timbuktu, le cinéaste filme l'amour réprouvé entre le patron chinois d'une boutique de thé et une ivoirienne dans le quartier africain de Canton. Pour le réalisateur, il s'agit de regarder autrement les mutations en cours engendrées par la mondialisation. À ses yeux, l'Europe a déjà quitté la scène africaine sans en avoir pleinement conscience, et le cinéaste prend acte à sa façon de la naissance d'un nouveau monde. Avec douceur, à la lisière de l'onirisme, il met en scène, avec un raffinement esthétique aux antipodes des métaphores guerrières, un îlot d'utopie précaire où quelques êtres humains, résidents du même quartier chinois, tissent des relations d'amitié et d'amour. Chocolate City se révélant à nous comme un espace idéal hors du temps où des humains jettent des ponts pour surmonter leurs différences. Un tel propos a de quoi surprendre en ces temps déboussolés. Abdelrahman Sissako ne joue pas cependant les naïfs, il revendique une autre vision de la mondialisation en nous projetant dans un conte d'anticipation, comme si l'émancipation à l'échelle intime pouvait transcender les grandes convulsions violentes actuelles. Comme si les cœurs battants des protagonistes de Black Tea, même à bas bruit, même blessés, même vaincus, étaient plus porteurs d'espoir que les rapports de force et la violence brute imposés par les puissances dominantes. Prenons donc patience et longueur de temps et regardons Black Tea nous raconter la possibilité d'un monde en mouvement vers une harmonie, selon Abdelrahman Sissako, cinéaste et humaniste irréductible. Black Tea, c'est un film d'Abdelrahman Sissako, est sorti le 28 février 2024. Il était en sélection officielle à la Berlinade 2024, à voir dans toutes les bonnes salles de notre ville. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, restez curieux.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard, à retrouver sur liondemain.fr.